Je suis très impressionné par un appareil que je n'avais encore jamais porté, donc comme quoi on innove à tout âge. Je doute aussi fort effectivement de vous apprendre grand chose, mais enfin on va essayer quand même de rappeler quelque chose, quelques éléments à propos de ces croisades. D'abord par la définition, on va commencer par une définition. Le terme croisade n'existe pas au moment où elle se produit. Le terme de croisade est un néologisme qui sera employé plus tard, mais il est clair que le phénomène, lui, il existe bel et bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par croisade? Eh bien, on entend évidemment des expéditions militaires à but essentiellement religieux, destinées pour l'essentiel à délivrer et à maintenir libre d'accès pour les chrétiens l'ensemble de la Terre Sainte, c'est-à-dire la Palestine, et d'une manière générale à conquérir ou reconquérir des terres sur les ennemis de l'Église, qu'il s'agisse par exemple au Moyen-Âge donc des musulmans en Espagne, qu'il s'agisse aussi de païens, et c'est le cas dans l'Est de l'Europe à l'époque, notamment les Lituaniens, ou qu'il s'agisse effectivement de contrées qui sont tombées aux mains de l'hérésie, et c'est le cas par exemple des Albigeois, c'est-à-dire des Cathares. L'ensemble donc de ces expéditions sont qualifiées de croisades. Pour autant, nous nous intéresserons évidemment ce soir au cas de ce phénomène, c'est-à-dire les croisades orientales, les croisades qui ont pour but effectivement donc de délivrer la Terre Sainte, 9 expéditions donc au total, qui vont effectivement s'échelonner sur pratiquement 2 siècles, et qui vont évidemment être un phénomène tout à fait important dans le temps, tout à fait important dans l'histoire effectivement de l'Église, dans l'histoire des sociétés européennes donc de l'époque, tout simplement parce que c'est un phénomène d'une importance numérique qui n'a pas de, pratiquement pas de, je dirais, de, comment dire, je vais perdre le mot, mais enfin, donc on peut difficilement comparer. Numériquement, ça met en marche effectivement des quantités d'hommes tout à fait importantes. La ferveur religieuse qui les anime, mais il ne faut pas faire l'impasse effectivement sur cette dimension, c'est même sans doute une des dimensions essentielles. Et puis la mobilisation des moyens, je dirais, matériels, moyens financiers qu'elles entraînent évidemment, même si les résultats, au terme de pratiquement 2 siècles d'efforts, donc entre 1095, comme a rappelé M. Labbé, et puis la fin du XIIIe siècle, 1291, peuvent paraître extrêmement modestes. Il est clair que ce soir, nous ne pouvons qu'évoquer ce phénomène des croisades, parce que son ampleur est telle qu'on est obligé de résumer de manière très importante, et on va centrer cette évocation sur la première croisade, la première des grandes croisades orientales, bon, la plus féconde parce qu'elle aboutit à un résultat qui est de libérer effectivement cette Terre Sainte, et puis surtout parce que les autres n'ont guère pour objectif que de maintenir le résultat acquis par cette première croisade. Alors, quand même quelques mots sur les origines de cette croisade. Essayer de passer en revue très rapidement effectivement les différents éléments qui permettent d'expliquer pourquoi ces croisades interviennent, pourquoi effectivement l'Occident s'est lancé dans ces croisades, pourquoi l'Église s'est lancée dans ces croisades, pourquoi ces croisades sont intervenues à ce moment-là, et pourquoi donc les croisades n'ont peut-être pas eu la postérité qu'elles étaient appelées à avoir. Alors, premier élément, il est clair que le XIe siècle est une période de stabilisation politique en Occident. À ce moment-là, la féodalité est bien en place. Le baronnage chrétien est bien en place dans à peu près l'ensemble de l'Europe, spécialement en France, en Allemagne. Ça veut dire aussi qu'il y a des ressources financières, notamment parce que l'Europe connaît à ce moment-là donc un essor agricole évident. Donc des ressources qui sont disponibles, des ressources en argent qui sont disponibles éventuellement pour financer ces croisades, ce qui n'était pas le cas auparavant, et puis des ressources en hommes, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une société féodale, tous les cadets en surnombre, en quelque sorte, qui ne sont pas hérités, eh bien, sont des chevaliers en puissance, ce sont des gens qui sont disponibles pour ces aventures, pour ces expéditions militaires. Deuxième élément, c'est la prospérité de l'Italie. La prospérité économique de l'Italie, la prospérité maritime de l'Italie, qui dispose de flottes très importantes, est un des éléments essentiels pour comprendre le déclenchement des croisades. Il faut bien voir qu'on ne part pas en croisade comme on part, effectivement, de nos jours en voyage. C'est-à-dire que partir en croisade, ça suppose avoir les moyens d'aller jusqu'en Terre Sainte. Ces moyens, on peut les trouver par route de terre, mais on peut les trouver par mer. Et puis une fois qu'on est en Terre Sainte, eh bien encore faut-il pouvoir se ravitailler. Et ça, ce sont les flottes italiennes, notamment les flottes des républiques italiennes de Gênes, de Pise et de Venise, évidemment, qui sont à même de l'assurer. Et c'est un des éléments tout à fait important. Et puis, il est clair aussi que la papauté, qui se trouve aux prises en Italie, donc avec les entreprises des Normands, viennent donc de notre Normandie, mais qui sont en train effectivement de s'implanter en Italie du Sud, il est clair que la papauté a à la fois envie de canaliser l'énergie de ces Normands qui sont en Sicile, en Italie du Sud, et il est clair aussi que la papauté a pour volonté de canaliser l'ensemble de la féodalité donc en Occident, c'est-à-dire que le Saint-Siège estime que toute cette énergie qui souvent est dépensée à, je dirais, des, sinon des guerres intérieures, du moins des risques de conflits intérieurs, eh bien cet ensemble de moyens, notamment humains, cet ensemble d'énergie et de foi, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, eh bien il faut l'employer à quelque chose qui est utile, et c'est ce quelque chose d'utile, évidemment, donc c'est la délivrance de la Terre Sainte. Délivrance de la Terre Sainte parce que au même moment, nous sommes dans un contexte où l'Église est en train d'organiser la reconquête de l'ensemble de l'Europe. Il ne faut pas oublier que moins de 2 siècles auparavant, les musulmans s'étaient emparés de la totalité de l'Espagne, s'étaient emparés de la Sicile, menaçaient les Balkans, que la piraterie barbaresque venait jusque sur les côtes de Provence et multipliait les pillages, les razzias, les razzias destinés à faire des esclaves, et qu'on est donc dans un contexte où désormais l'Europe se reprend. Elle part à la reconquête, elle part en 1085, pour donner quelques points de référence chronologique, le roi Alphonse VI d'Espagne vient de reprendre Tolède aux musulmans. Dans le même temps, donc la reconquête de la Sicile sur les musulmans s'est achevée, et puis surtout, on est dans une période aussi de réforme de l'Église. Il ne faut pas oublier que c'est le moment du grand essor de l'ordre de Cluny, et que les moines clunisiens vont donner une espèce d'unité, d'armature spirituelle à cette entreprise de reconquête. C'est-à-dire que la volonté de renouvellement à l'intérieur de l'Église, la volonté de perfection à l'intérieur de l'Église, eh bien, trouve aussi son exutoire dans cette aventure spirituelle et militaire, que vont être les croisades et que sont la délivrance donc, de la Terre Sainte. Troisième, et il est bon de constater que le pape Urbain II est un moine clunisien. Ce n'est pas un hasard, effectivement, si... Je dirais, on a véritablement ce projet de fédérer toutes ces énergies à travers donc l'abbaye de Cluny, à travers ceux qui en sont issus, à travers la papauté, effectivement, donc pour cette reconquête. Et puis, troisième élément, et c'est pas le moins important, c'est la dégradation de la situation en Orient. Dégradation de la situation parce que les Byzantins qui incarnent, qui voulaient la continuité de l'Empire romain en Orient, mais qui sont passés au schisme grec, ces Byzantins ne parviennent pas à conquérir la Terre Sainte, qu'ils ont perdu quelques siècles auparavant. Et puis surtout, la situation se dégrade parce que quelques décennies auparavant, les Fatimides d'Égypte, qui sont une dynastie musulmane, d'ailleurs chiite, ont détruit le Saint-Sépulcre. En 1010, le Saint-Sépulcre est détruit, effectivement, à l'initiative du calife Fatimide d'Égypte, qui décide d'en terminer avec la présence chrétienne en Terre Sainte, et qui décide surtout d'en terminer avec les pèlerinages chrétiens. Et puis la situation, plus récemment, se dégrade encore avec l'arrivée des Turcs Seldjoukides, qui sont des envahisseurs venus d'Asie centrale et qui ont battu les Byzantins donc à la bataille de Manzikert en 1071, et surtout qui, eux, ont considéré qu'il fallait aussi donc en finir. Désormais, les lieux saints sont interdits aux chrétiens, et ceux qui s'y aventurent en pèlerinage, en caravane, bien entendu, sont de manière régulière attaqués, radiés, capturés, réduits en esclavage. Alors même que la condition des chrétiens d'Orient, ceux qui sont restés sur place, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient schismatiques ou hérétiques, mais qui sont chrétiens, effectivement, que la condition de l'ensemble des chrétiens d'Orient, effectivement, est en train de se dégrader. Et il est clair que la situation en Orient, notamment la situation qui est faite au pèlerinage chrétien, au pèlerin chrétien en Terre Sainte, a un retentissement immédiat en chrétienté, a un retentissement immédiat en Occident. La papauté d'alors, effectivement, n'est pas prête à accepter, alors qu'elle est en plein renouveau, qu'elle est en pleine reconquête, n'est pas prête à accepter, effectivement, cette situation. Cette idée, donc, de croisade, de délivrance, donc, de la Terre Sainte, elle est préparée par le pape Grégoire VII, et puis, vous savez qu'elle est reprise, donc, par le pape Urbain II. C'est véritablement l'idée de renverser la pression musulmane qui s'exerçait depuis 2 siècles sur l'Europe. Et c'est vraiment l'idée de faire ce que les musulmans, quelque part, ont fait, en s'emparant donc des terres qui étaient jusque-là chrétiennes, c'est-à-dire de reconquérir, de redélivrer, effectivement, des terres qui sont considérées comme chrétiennes, et où, il ne faut pas oublier, continue de vivre une majorité de chrétiens. La Syrie de l'époque, la Palestine de l'époque, sont encore habitées par des populations qui sont éventuellement majoritairement chrétiennes, ou en tout cas qui sont très fortement minoritaires. Enfin, disons, les chrétiens représentent de très très fortes minorités. Le Proche-Orient de l'époque, et ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, n'est pas le Proche-Orient d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la présence chrétienne, la présence autochtone chrétienne, est infiniment plus présente, et dans la papauté, il s'agit bien entendu de délivrer aussi ces chrétiens d'Orient, de manière à façon éventuellement à promouvoir un retour à l'unité. Alors, cette croisade, cette première croisade, cette reconquête de la Terre Sainte, Elle s'organise, comme M. Labbé le rappelait, à l'appel d'Urbain II, au concile de Clermont, le 27 novembre 1095. C'est un mouvement qui avait déjà été préparé. Ce n'est pas quelque chose qui tombe, je dirais, dans un désert spirituel. C'est un mouvement qui est déjà en germe. C'est-à-dire que depuis déjà 3-4 années, l'Europe est parcourue de prédicateurs. L'Europe est, on connaît les intentions du pape. C'est pas pour rien que à Clermont se trouve, outre les évêques, un bon nombre d'évêques de la France et puis de ce qu'on appelle la Lotharingie, c'est-à-dire en gros des régions de la Lorraine et de l'Europe médiane actuelle, de la vallée du Rhin. C'est pas pour rien aussi qu'à côté de ces évêques se trouve réuni tout le baronnage européen ainsi que le roi de France. Et cette croisade donc qui est lancée au cri de Dieu le veut, hein, c'est vraiment le cri qui est d'abord un cri populaire. C'est pas le cri d'Urbain II, c'est la volonté populaire, c'est l'état d'esprit de l'immense majorité des populations effectivement qui est repris à cette occasion donc par la papauté, ce cri de Dieu le veut, qui traverse toutes les couches de la société. La croisade, la première croisade, c'est pas l'initiative de quelques barons, c'est pas l'initiative de la papauté isolée qui cherche à convaincre, c'est véritablement depuis la paysannerie, depuis donc la masse de la population, jusqu'effectivement donc au plus haut baronnage, jusqu' pratiquement aux entourages royaux, que tout le monde a ce désir effectivement, pousse ce cri de Dieu le veut, et a ce désir effectivement de délivrer la Terre Sainte. L'objectif c'est donc la délivrance du Saint-Sépulcre, de la Terre Sainte, c'est le secours des chrétiens d'Orient, et le succès de l'entreprise est immédiat. La prédication d'Urbain II, la prédication des moines de Cluny au concile de Clermont, remporte une adhésion immédiate. Elle était évidemment préparée, mais le succès est sans précédent. Et comme le dit René Grousset, qui est quand même le grand spécialiste français de ces croisades, il s'agit d'une idée passionnelle suscitant une mystique collective. Et je crois que l'expression est très bonne pour définir les croisades, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet structuré qui cadre avec la réalité d'une époque, la reconquête, et qui en même temps donc suscite véritablement l'adhésion de l'immense majorité des populations européennes et une véritable mystique, c'est-à-dire un véritable besoin de conversion. Ce succès, il est immédiat. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, sans même d'ailleurs que les souverains s'y associent. Hein, les souverains, la première croisade, la laisseront de côté. Il est vrai que leur situation n'est pas forcément toujours très très évidente, mais d'un bout à l'autre de la société, effectivement, donc on cherchera à participer. Le symbole, bah vous savez tous, les croisés porteront donc une croix d'étoffe cousue sur leurs vêtements. La croisade permet d'obtenir l'indulgence plénière, notamment lorsqu'on meurt au combat. Et ce qui va faciliter le succès de cette expédition, de cette organisation, c'est que les biens des croisés sont placés sous la sauvegarde de l'Église. Partir en croisade, c'est évidemment partir pour plusieurs années. C'est quitter ses biens, c'est quitter sa famille, c'est quitter sa parentèle. Et on ne sait jamais éventuellement ce qu'on pourra trouver au retour. Eh bien, l'Église, pour montrer effectivement donc la primauté qu'elle accorde à ce projet, place effectivement les biens des croisés sous sa sauvegarde, c'est-à-dire que quiconque cherche à s'emparer ou même à nuire à la famille d'un croisé, eh bien, tombe sous le coup de l'anathème et encourt l'excommunication. Alors, la formation de cette première croisade, eh bien, elle permet d'observer la distinction de ce qu'on appelle la croisade des pauvres gens et puis celle des barons. La plus immédiate, c'est évidemment celle des pauvres gens. Elle naît de cet enthousiasme populaire. Elle est conduite notamment par un moine dont plus tard la réputation aura à souffrir quand même devant Antioche, qui est Pierre l'Ermite. Je vous dis, puisque nous sommes dans la région, c'est un moine qui notamment a fait un passage à l'abbaye de Charlieu. C'est une croisade qui va partir. L'autre personnage qui dirige s'appelle Gautier Sans Souci, hein, de cet art qui avait le Moyen-Âge d'affubler les gens de surnoms. Apparemment, le souci, c'était surtout de délivrer le Saint-Sépulcre, hein, et puis de laisser là les biens de ce monde. Cette croisade, évidemment, elle part immédiatement. C'est une prédication, c'est-à-dire tout simplement, on s'agglomère, on s'amalgame au fil de la prédication, au fil des chemins. On part en direction de la Terre Sainte, à travers les Balkans, c'est donc une croisade terrestre. Et effectivement, donc, une espèce de marée humaine de plusieurs dizaines de milliers de personnes se rue à travers les Balkans. Il faut dire que la conduite de ces croisés n'est pas exemplaire, tout simplement parce que, une masse de plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers l'Europe du XIe siècle, ça suscite immanquablement des pillages, c'est-à-dire que cette croisade, elle vit d'abord sur les terres qu'elle traverse, et elle va susciter assez rapidement d'ailleurs les représailles des Byzantins, qui voient d'un très mauvais œil cette marée humaine, pas très bien contrôlée, déferler sur leurs terres. Malgré tout, ces croisés parviennent à franchir donc le Bosphore, mais malheureusement pour finir massacré par les Turcs en Anatolie en octobre 1096, soit pratiquement près d'un an après la prédication. Il est clair que cette croisade n'avait aucune chance d'aboutir, tout simplement parce qu'on ne peut pas, je veux dire, elle était totalement improvisée, il s'agissait de masse humaine, mais qui n'avait strictement aucune formation militaire, qui n'avait pas d'encadrement, qui n'avait pas de discipline, évidemment, et qui sont tombés sous les coups de la première force organisée rencontrée, celle des Turcs, qui, il ne faut pas l'oublier, était une force considérable, c'est-à-dire que ce sont des dizaines de milliers, là encore, de soldats, dans un pays, qui commence effectivement donc à être l'Asie mineure très partagée donc, entre chrétiens et musulmans. Seconde croisade, celle qui va aboutir, la croisade dite des barons, est confiée à l'évêque comte du Puy, Adhémar du Monteil, qui mourra d'ailleurs pendant la croisade en août 98. Et c'est une croisade évidemment qui va être beaucoup plus lente à s'organiser, mais qui va être infiniment mieux structurée. Elle s'organise à travers quatre groupes, dont le point de ralliement sera Constantinople. Il s'agit de faire étape à Constantinople, tout simplement pour se ravitailler, pour se compter, et pour ne pas partir effectivement en ordre dispersé en Asie mineure où on sait que les Turcs vous attendent de pied ferme. Le premier groupe qui regroupe des chevaliers de l'Europe du Nord-Ouest, essentiellement du nord de la France, de la Flandre, de la Lotharingie, c'est-à-dire donc de la vallée du Rhin et de l'Allemagne moyenne, est commandé par le plus célèbre, c'est-à-dire Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, c'est-à-dire de Brabant, et son frère Baudouin de Boulogne. Ce groupe-là, qui se met en chemin très rapidement à travers donc l'Europe danubienne, qui descend tout simplement la vallée du Danube, arrivera en décembre 1096 à Constantinople. Le deuxième groupe est conduit cette fois-ci par un prince normand d'Italie, Bohémond de Tarente, par son neveu Tancrède, et cette croisade donc des Normands de Sicile, ce groupe des Normands de Sicile et d'Italie du Sud, parviendra donc après avoir traversé la Macédoine, l'Épire, parviendra donc à Constantinople en avril 97, printemps 97. Le troisième groupe est celui des seigneurs du midi de la France et du nord de l'Espagne. Il est conduit par le comte de Toulouse, Raymond Saint-Gilles. Ceux-ci vont s'embarquer. Et ils vont aller arriver, donc ils vont s'embarquer à destination de Constantinople. La croisade, donc, dans un premier temps, se fera par mer. Enfin, le quatrième groupe, celui qui arrivera le dernier en juin 1097 et qui va lui aussi s'embarquer, est conduit par le duc de Normandie et le comte de Flandre, avec essentiellement des chevaliers donc de la France du Nord et du Nord-Ouest. Les quatre groupes de croisés, ce qui représente quelques milliers à peu près, on estime à peu près au total de l'ordre de 8 à 10 000 croisés. Pour la première croisade, 8 à 10 000 chevaliers, c'est-à-dire sans compter les hommes d'armes, les écuyers, les valets, au total vraisemblablement à peu près quelque chose comme 20 000 hommes. Hein, environ 20 000 hommes, effectivement, donc ces quatre groupes. Arrivent donc au printemps, en juin 97, ils sont donc à peu près tous à Constantinople. Là, il y a toute une phase de négociation avec Byzance. On aura d'ailleurs à l'occasion de revenir sur les relations entre croisés et byzantins. Et le passage des croisés s'opère donc au mois de juin, un moment très favorable parce qu'à ce moment-là, les musulmans, notamment les Turcs, connaissent un certain nombre de divisions. Et aussitôt le passage, on peut dire que la providence s'en mêle et que véritablement on a l'impression que l'histoire est du côté des croisés, dans la mesure où une première victoire, la victoire de Dorylée, est remportée le 1er juillet 1097 sur les Turcs, qui permet donc le passage de l'Asie mineure, et très rapidement, les croisés, effectivement, attention, la traversée de l'Asie mineure, ça c'est quand même pas en 15 jours, il s'agit d'armées extrêmement importantes, qui se déplacent de manière très très lente, et on arrive en fin d'année 1097 aux alentours d'Antioche, qui est une ville très importante, parce que pour les croisés, elle est un symbole, elle a quand même été une des premières villes chrétiennes donc en Orient, et puis elle a quand même été le premier siège de Pierre, de l'apôtre Pierre, de Saint-Pierre, et après un très long siège, pratiquement 7 mois, Antioche tombe en juin 1098, donc aux mains des croisés. Aussitôt, et durant cette période d'ailleurs, la région d'Édesse, qui est au nord de la Syrie actuelle, est également conquise, et très rapidement, les principaux seigneurs vont commencer de reproduire ce qu'ils connaissent en Occident, c'est-à-dire de se partager les terres libérées en fiefs, effectivement, dont ils font les détenteurs. Très rapidement, d'ailleurs, ces négociations ayant tendance à tourner à l'aigre, la foule des croisés, la foule des chevaliers, je dirais, de base, du rang, va s'indigner, va se protester contre les retards, d'ailleurs, qui semblent être pris par la croisade, et très rapidement, la décision, d'ailleurs, grâce à Godefroid Bouillon la décision donc est prise de marcher directement sur Jérusalem sans tenir compte des villes qui sont aux mains des musulmans. On a conscience que ce qu'il faut, c'est faire aboutir très rapidement la croisade par la prise de Jérusalem, qui est évidemment le but recherché, qui est évidemment éminemment symbolique, et puis eh bien, on parachèvera en quelque sorte la conquête de la Terre Sainte un petit peu plus tard. On arrive sous les murs de Jérusalem à peu près à la mi-juin 1099, et après quelques jours d'observation, après de furieux assauts, parce que les combats sont tout à fait dramatiques, la ville est prise le 15 juillet 1090. Il est vrai, donc, l'acharnement était tel, la difficulté à prendre la ville a été telle, la ville était très bien défendue par les Fatimides d'Égypte qui s'en étaient emparés quelque temps auparavant. Cette prise est extrêmement violente, évidemment, et effectivement, elle est suivie, c'est aujourd'hui beaucoup reproché, d'un massacre, c'est-à-dire que l'ensemble, pratiquement, de la population musulmane de Jérusalem est passée au fil de l'épée. Quand on connaît aujourd'hui la géographie de Jérusalem, c'est vrai que quand on est dans les ruelles et qu'on est en train de conquérir une place forte, il est bien difficile de faire la part des choses, et que quand on est dans la situation des croisés, à savoir effectivement face à une masse de musulmans dont on ne sait absolument pas quelles sont les réactions, ben, il était clair que la solution dans l'urgence, la solution qui s'imposait, je dirais, c'était d'abord effectivement donc de conquérir la place, même si évidemment donc les choses ont suscité pas mal de sang, d'effusions de sang. Très rapidement, la décision est prise donc d'organiser cette conquête, et le 22 juillet 1099, qui est une date assez importante, Godefroid de Bouillon devient avoué du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire défenseur du Saint-Sépulcre. Par humilité, il refusera le titre de roi. Les croisés veulent lui confier le titre de roi de Jérusalem. Godefroid de Bouillon déclinera toujours ce titre, cet honneur, en disant que le seul roi, Jérusalem, c'est d'abord l'Église, le seul roi de Jérusalem, c'est évidemment notre Seigneur, et lui se contente du titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Très rapidement, les croisés remportent une victoire sur les Fatimides d'Égypte qui venaient donc délivrer Jérusalem, la victoire d'Ascalon, en 1099, et à ce moment-là, le Saint-Sépulcre, évidemment, la ville de Jérusalem et une partie de la Terre Sainte sont libres. Apparemment, la croisade a réussi. Le premier des objectifs, effectivement, donc, est réalisé. L'étendard de la papauté flotte à ce moment-là sur le Saint-Sépulcre. La croix est remise sur le Saint-Sépulcre, qu'on s'empresse d'ailleurs de rebâtir. Mais la Terre Sainte, évidemment, est loin d'être totalement conquise. Et il faudra notamment s'emparer. Et ce qui explique la détermination des croisés, c'est parce qu'il y a véritablement menace. Ils sont véritablement une poignée au milieu d'un océan qui reste hostile. Il faudra s'emparer des villes du littoral qui sont restées aux mains des musulmans. Et cette conquête définitive de la Terre Sainte est une œuvre de longue haleine pour montrer que ça n'est pas quelque chose de facile. Ce sera essentiellement d'ailleurs l'œuvre de Baudouin de Jérusalem, le frère de Godefroid de Bouillon, qui meurt en juillet 1100. La ville de Césarée tombe en mai 1101, Saint-Jean d'Acre, enfin la future Saint-Jean d'Acre, tombe en mai 1104, la ville de Tripoli au nord du Liban actuel attendra juillet 1109 pour tomber, et la dernière, enfin les dernières des grandes villes, ce sera Beyrouth en mai 1110, et puis les régions situées de l'autre côté du Jourdain ne seront reconquises sur les musulmans donc qu'en 1110-1111. Vous voyez quelque chose de très lent qui montre la la difficulté à s'emparer de cette Terre Sainte et la nécessité évidemment donc de s'y implanter de manière extrêmement durable et je dirais de faire fi éventuellement des considérations qu'on dirait aujourd'hui philanthropiques en quelque sorte, parce que évidemment il y avait urgence, il y avait menace, il y avait péril. Donc il faudra pratiquement 11 ans d'efforts pour que la Terre Sainte délivrée s'organise avec la constitution d'un certain nombre donc de principautés. Je vous les cite du nord au sud. Au nord on a donc le comté d'Édesse, un petit peu plus au sud la principauté d'Antioche, encore plus au sud sur la côte le comté de Tripoli, et enfin le royaume de Jérusalem. On peut d'ailleurs adjoindre à ces états francs, à ces états latins de Terre Sainte, un royaume autochtone, le royaume arménien de Cilicie, qui est donc au sud de l'Asie mineure, qui sera d'un grand secours pour les croisés, parce que les arméniens, même si ils sont schismatiques, seront toujours des alliés fidèles pour les croisés, et seront sûrement un des meilleurs remparts effectivement donc contre les avancées des Turcs. Et puis plus tard l'île de Chypre, là aussi reconquise sur les Byzantins et sur les musulmans, donc fera partie de ces états latins. Réussite apparente de la croisade, une terre sainte qui est délivrée, un Saint-Sépulcre évidemment qui est rendu aux pèlerins, une ville de Jérusalem qui est désormais donc libérée, un succès évident, une apparence de succès, enfin un succès qui est réel, qui est évident, mais un succès qui est malheureusement sans cesse menacé. Et c'est ce qu'on doit dire, et ce sera le drame de toute cette épopée des croisades, c'est-à-dire que la réussite initiale sera sans cesse menacée, et il faudra sans cesse des efforts, effectivement, pour parvenir à maintenir ce résultat. Alors, pourquoi cette menace perpétuelle, et pourquoi finalement cette durée de vie finalement, assez brève des États latins d'Orient, de la Terre Sainte franque, chrétienne, eh bien, à cause d'une faiblesse originelle. L'erreur qui a sans doute été commise, et c'est pas pour accabler ces pauvres croisés qui ont fait merveille d'énergie, mais l'erreur a été justement de ne pas conquérir la totalité de la Terre Sainte, de la Syrie. La croisade, une fois délivrée Jérusalem, une bonne partie de la croisade s'est rembarquée, est rentrée en Europe. On peut comprendre les gens qui repartaient en Europe. Ça faisait déjà pratiquement plus de 2 ans qu'ils étaient partis, 2 ou 3 ans même qu'ils étaient partis. Et il est clair que retourner chez eux devait apparaître comme quelque chose de tout à fait nécessaire, tout à fait souhaité. Dès l'automne 99, donc une bonne partie des croisés donc se rembarquent, avec notamment une bonne partie donc des barons qui encadraient cette croisade, sans que les villes de Syrie soient conquises, sans que la ville de Damas, sans que la ville d'Alep, sans que la ville d'Homs, sans que la ville de Hama soient conquises. Et ça, c'est une erreur funeste. Pourquoi? Eh bien, parce que la Terre Sainte se réduira toujours à une espèce de bande extrêmement étroite qui sera menacée par les musulmans venus de l'intérieur. C'est-à-dire que si on avait conquis l'ensemble de ces villes, l'ensemble de la Syrie, ça mettait entre les musulmans, le califat, l'Irak et l'Iran, ça mettait le désert. C'est-à-dire que pour éventuellement préparer des expéditions, les musulmans auraient dû s'y prendre de manière beaucoup plus massive, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus lente, et ça laissait un délai. Puis ça laissait surtout, effectivement, une bande de territoire suffisamment large pour éventuellement organiser une défense plus en profondeur. Et cette erreur originelle aura évidemment des conséquences tout à fait funestes sur la pérennité, sur la survie de la Terre Sainte. Il ne faut pas oublier que ça n'est qu'une bande menacée, d'une part par, effectivement, donc, l'émirat, le califat de Bagdad, et puis d'autre part par l'Égypte. Hein, les croisés seront perpétuellement encerclés effectivement sur cette bande de littoral. Deuxième source de faiblesse, et elle découle de la première, c'est le manque d'hommes. C'est le manque d'hommes, et ça rend, je dirais, d'autant plus héroïque la défense de la Terre Sainte. Ça met d'autant mieux en valeur l'énergie, la ténacité, véritablement l'héroïcité de ceux qui se sont maintenus en Terre Sainte. Parce qu'on a d'ailleurs du mal à imaginer comment elle a pu tenir cette Terre Sainte avec aussi peu d'hommes. Simplement, il faut savoir par exemple qu'à l'automne de 99, après le rembarquement des croisades, autour de Godefroy-de-Bouillon, il reste en tout et pour tout 300 chevaliers. 300 chevaliers, c'est-à-dire qu'il y a en gros, pour défendre le royaume de Jérusalem, à peu près 1 millier d'hommes. À l'époque, l'armée du sultan d'Égypte, enfin du calife Fatimide d'Égypte, c'est de l'ordre, il peut mobiliser de l'ordre de 100 à 120 000 hommes. Ça vous montre la disproportion des forces et les trésors d'héroïsme, d'énergie qu'il aura fallu effectivement déployer. Si on fait la situation en 1124, au moment où les États sont bien organisés, on a tout simplement des recensements à peu près, on sait à peu près comment les fiefs étaient attribués, donc à peu près les ressources qui étaient disponibles, on a à peu près 1100 chevaliers pour la totalité des États francs d'Orient. C'est-à-dire, globalement, il y a à peu près 6000 hommes d'armes pour défendre la Terre Sainte. Voilà. Les croisés et ceux qui vont rester en Terre Sainte vont se débrouiller avec à peu près ça. À peu près 6000 hommes d'armes. Et cette faiblesse que la papauté, évidemment, a constatée, et le pape en est d'ailleurs si conscient que très rapidement on va organiser des expéditions destinées à renforcer ce potentiel humain, et malheureusement, en 1101, 2 expéditions destinées justement à renforcer donc la Terre Sainte vont être des échecs, vont se retrouver massacrées en Asie mineure par les Turcs, une première expédition conduite notamment par le comte de Toulouse, et puis une deuxième conduite par le comte de Nevers et le comte de Poitiers. À l'automne de 1101, ces 2 expéditions de secours seront effectivement détruites, massacrées par les Turcs dans l'Asie mineure, ce qui prive la Terre Sainte d'à peu près 20 000 hommes. Ce qui évidemment aurait permis une défense beaucoup plus large, beaucoup plus sérieuse, et puis surtout d'être véritablement, d'avoir moins à déployer, je dirais, des trésors d'énergie effectivement pour défendre cette Terre Sainte. Il faut dire d'ailleurs que c'est en grande partie pour compenser ces faiblesses numériques que vont être créés les ordres militaires. Les ordres militaires, bon, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre des hospitaliers, et puis surtout l'ordre du Temple, qui est créé en 1118 par un chevalier champenois, Hugues de Payens, et qui va constituer l'armée permanente des croisés, l'ossature militaire appuyée sur un réseau de forteresses qui seront très rapidement construites. Et ce sont ces ordres militaires, évidemment, qui assureront la garnison de ces forteresses, c'est-à-dire un petit peu le maintien permanent, effectivement, d'une ligne de défense par rapport donc aux musulmans. Troisième source de faiblesse, et c'est peut-être pas la moindre non plus, des divisions. Des divisions évidentes. Des divisions qui ne sont pas à l'origine de la chute de la Terre Sainte, mais qui vont contribuer à rendre sa défense beaucoup plus difficile. Les divisions, l'erreur là aussi, c'est d'avoir reproduit en Orient ce qu'on connaissait en Occident, c'est-à-dire la division en principautés, la division en fiefs. C'est-à-dire que toutes les dynasties locales de Terre Sainte ne s'entendront pas toujours et ne s'uniront pas toujours, effectivement, au moment adéquat pour combattre l'ennemi. Deuxième source de division, c'est la division entre, d'une part, ceux qui s'établissent en Terre Sainte, qu'on appelle les poulains, et d'autre part, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je l'avoue tout de suite. Ceux qu'on à l'époque appelle, donc qualifie de poulains, et puis ceux qu'on appelle les pèlerins, c'est-à-dire ceux qui périodiquement soit viennent en pèlerinage, soit viennent renforcer pour quelques mois la défense de Terre Sainte, c'est-à-dire se croisent pour quelques mois, effectivement, donc pour venir renforcer des défenses. Alors, division, tout simplement parce que très rapidement les deux ont du mal un petit peu à se comprendre. Les pèlerins, notamment, c'est-à-dire ceux qui viennent momentanément, ont du mal à comprendre que ceux qui restent fassent autant de concessions aux musulmans. Notamment, ils s'étonnent qu'une partie de la population musulmane continue à vivre effectivement en Terre Sainte. Et puis, on leur reproche également une certaine orientalisation dans le mode de vie. Les seconds, effectivement, reprochent aux premiers de rien comprendre la situation locale et de ne pas comprendre que peut-être qu'il vaut mieux faire alliance momentanément avec un émir lui-même opposé au califat que de tout massacrer pour se retrouver effectivement avec aussitôt l'armée du calife Fatimide sur les bras en totalité. Et c'est vrai que ces malentendus, en quelque sorte, rendront plus difficile la défense de la Terre Sainte. Et puis, la troisième source de faiblesse et de division, et c'est peut-être foncièrement ce qui fera que la reconquête ne sera malheureusement que momentanée, c'est l'absence d'alliance avec les Grecs, avec les Byzantins. Une méfiance tout à fait profonde, et je dirais même beaucoup de fourberie de part et d'autre, notamment de la part des Byzantins, parce que la grande idée des Byzantins, c'est de se servir des croisades pour reconquérir des territoires, éventuellement, quitte à expulser les croisés si possible, très rapidement. Et l'opposition, alors évidemment, c'est un fossé donc qui n'aura que tendance à se creuser avec le temps, et notamment lorsque la quatrième croisade aboutira non pas au secours de la Terre Sainte, mais à la prise de Constantinople et à l'instauration de l'Empire latin de Constantinople, il est clair qu'à ce moment-là, la division sera profonde. C'est-à-dire que très fréquemment, on verra les Byzantins favoriser ou détourner tranquillement les yeux quand il y aura des offensives musulmanes, en se disant, de toute façon, mieux vaut laisser faire les musulmans plutôt que de secourir les croisés. Et inversement, d'ailleurs, je dirais que ça n'est pas dans un seul sens, mais la médiocrité, pour ne pas dire plus, les très mauvaises relations effectivement entre Byzantins et entre croisés ne feront que rendre plus difficile cette défense de la Terre Sainte et empêcheront effectivement que la reconquête soit durable. Dernier aspect, évidemment, cette Terre Sainte donc est menacée, et pour faire face à cette menace, il faudra sans cesse que des croisades de secours s'organisent évidemment donc pour tenter de rétablir la situation. La première croisade, comme je vous l'avais dit, n'avait vu la participation d'aucun monarque européen. Les tentatives ultérieures, au contraire, seront pratiquement toutes des initiatives des souverains européens. La prédication en revient bien entendu à la papauté, les papes successifs continueront de prêcher la croisade, et à chaque fois, il se trouvera des souverains européens pour répondre, effectivement, présents, ce qui montre l'ancrage de cette initiative. C'est pas un feu de paille. La croisade, c'est pas une vague comme ça, hystérique, comme on va nous faire croire, qui précipite donc des gens, effectivement, sur la Terre Sainte, et puis qui retombe aussitôt. C'est quelque chose de profond, parce qu'on a vraiment conscience, dans la mentalité du temps, que la défense de l'Occident, elle commence en Orient. C'est-à-dire que si, et ça on oublie, les croisades, elles n'ont peut-être pas abouti à une reconquête durable de la Terre Sainte, mais il n'empêche qu'elles ont empêché, au moins pour 3 siècles, les Turcs d'avancer en Europe. Et c'est une fois que la Terre Sainte sera tombée, une fois que Byzance sera tombée, que les Turcs, effectivement, avanceront et iront jusqu'à Vienne, jusqu'aux portes, effectivement, de notre Europe, de l'Europe, donc, de l'Ouest. Et donc ces monarques ont bien conscience que véritablement, quelque part, l'avenir de leur royaume et l'avenir de l'Europe entière, la chrétienté, se joue effectivement donc en Orient. La deuxième croisade intervient après un accroissement très net de la menace, notamment lorsque un nouvel émir s'installe dans la ville d'Alep, l'émir Zengi, et lorsque cet émir, effectivement, va chercher à unifier les efforts des Syriens, des musulmans syriens, donc contre les Francs. Très rapidement, effectivement, les croisés qui sont en trop faible nombre ne peuvent s'interposer, donc, et Édesse, qui est la plus excentrée donc, des territoires donc, francs, donc Édesse chute le 23 novembre 1144. Je précise, on a souvent beaucoup fait grief aux croisés du massacre de Jérusalem, que toute la population chrétienne, notamment tous les Arméniens, qui vivaient là depuis des décennies et des siècles, effectivement, Édesse, sont passés au fil de l'épée. Et ce sera systématique dans la totalité des villes reconquises dans la région d'Édesse. Donc face à cette chute d'Édesse et face à cette situation de la Terre Sainte donc, qui a tendance à se dégrader, eh bien, le pape demande alors à la grande autorité du temps, qui est Saint Bernard de Clairvaux, de prêcher la deuxième croisade. Et Saint Bernard, à Vézelay, en mars 1146, devant une très large assemblée du baronnage européen, de la noblesse, de la chevalerie du nord de l'Europe, donc prêche cette deuxième croisade. Cette croisade, elle sera conduite par le roi Louis VII de France. Elle sera conduite également par l'empereur Conrad II d'Allemagne et elle part effectivement donc dès la fin d'année 1948. Elle se heurtera dans un premier temps aux Byzantins, elle échouera à traverser l'Asie mineure, elle se réembarquera à destination de la Terre Sainte, elle débarquera d'ailleurs donc à Saint-Jean d'Acre et là les croisés d'ailleurs assez maladroitement vont s'attaquer à Damas, à l'émir de Damas qui est pourtant d'ailleurs un allié. Qui lui-même voit bien la menace que fait peser sur sa propre couronne, donc le Zengi, au lieu de s'en prendre donc justement à ce dernier, et d'ailleurs en dépit des recommandations du comte de Tripoli, ce qui illustre bien ces différences d'appréciation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur place, qui connaissent bien la situation, et puis il y a des croisés qui sont armés de toute leur ardeur, de toute leur foi, de toute leur bonne volonté, mais qui ne se rendent pas forcément compte effectivement des données locales du problème. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas d'agence de presse à l'époque, qu'il n'y a pas d'observatoire géopolitique, et qu'il est bien difficile de faire une idée exacte de la situation. Et donc cette deuxième croisade, bon, ben, elle contribue, si vous voulez, à renforcer les effectifs dans un premier temps, effectivement, de la Terre Sainte, très rapidement, donc, les souverains s'embarquent, et elle n'aboutit donc à aucun décisif. Et il faut dire, malheureusement, que ce sera pratiquement le sort de la quasi-totalité des expéditions qui vont suivre. Et on arrive... très rapidement, effectivement, donc à une situation de plus en plus critique, en dépit, là encore, du courage et de l'héroïcité, effectivement, donc de notamment des souverains de Terre Sainte. Le roi, les deux, j'évoque quand même la figure de deux personnages, parce qu'ils le méritent, c'est d'une part le roi Mori de Jérusalem, qui va essayer de conquérir l'Égypte à un moment où les Fatimides sont en pleine décadence, mais qui finalement va provoquer l'accession au pouvoir de celui qui sera pratiquement l'ennemi mortel des croisés, qui sera Saladin, nouvel émir effectivement d'Égypte, qui très rapidement va chercher à unifier l'ensemble des forces, notamment donc d'Égypte et de Syrie. Le roi Mori, malgré son courage et malgré ses tentatives, effectivement, n'aboutira pas à des résultats tout à fait adéquats et intéressants. Et l'infériorité est évidente à ce moment-là, donc entre les troupes des Francs et puis d'autre part entre les musulmans. Et il faut quand même faire mention de son successeur, son fils, le roi Baudouin IV, qui accède au trône d'ailleurs de très jeune, il a même pas 7 ans quand il accède au trône, et surtout ce pauvre Baudouin IV est affligé d'une maladie bien terrible qui est la lèpre, on l'appellera donc le roi lépreux, et ça n'empêche pas ce roi lépreux, tout jeune qu'il est, effectivement, bon, il y a une période de régence, mais très rapidement, hein, il a à peine 14 ans, il va lui-même prendre la tête des troupes, et c'est lui-même qui va littéralement, soutenu d'ailleurs par une foi exemplaire, qui va effectivement donc poursuivre la lutte, et notamment en 1177, à la tête de sa propre chevalerie, en dépit de sa maladie, il remportera la victoire de Montgisard, effectivement, sur Saladin, et son prestige est tel qu'il va même réussir d'ailleurs à impressionner Saladin lui-même et il va obtenir une trêve qui met évidemment la Terre Sainte à l'abri pour quelques années. Malheureusement, en 1083 d'ailleurs, le roi parvient même donc à sauver les forteresses les plus exposées, en dépit d'ailleurs de forteresses menacées à la suite de tentatives de pillage de certains seigneurs, évidemment là aussi très très maladroits. Malheureusement, ce roi Baudouin IV meurt avant ses 18 ans, donc en mars 1185, et les musulmans d'ailleurs seront pratiquement les premiers à venir lui rendre hommage. Ce qui témoigne évidemment donc de l'héroïsme évidemment donc de ce jeune souverain. Et pour le malheur de la Terre Sainte, la couronne échoue à ce moment-là à un successeur malheureusement bien plus incapable, Guy de Lusignan, qui va engager toutes les forces, va réunir à peu près toutes les forces donc du royaume de Jérusalem pour dans une unique chevauchée, dans l'espoir donc de battre en rase campagne l'armée musulmane, l'armée sarrasine. Et c'est évidemment donc le contraire qui se produit. À Hattin, près de Tibériade, l'armée franque est massacrée, est taillée en pièces, le roi lui-même est fait prisonnier en juillet 1187, et bien entendu, du fait de cette erreur, la Terre Sainte, et notamment le royaume de Jérusalem, se trouve sans défense. Il n'y a plus de défenseurs, effectivement, les forteresses sont pratiquement sans garnison, sans défenseurs, il n'y a plus de force qui soit capable de s'opposer donc aux forces musulmanes, et Saladin, littéralement, n'a qu'à lancer une espèce d'immense razzia sur le royaume de Jérusalem. La plupart des villes tombent à ce moment-là d'ailleurs, c'est le cas de Beyrouth, c'est le cas de Jaffa, et puis très rapidement la ville de Jérusalem est contrainte à se rendre. En 1187, pour une première fois effectivement, donc la ville de Jérusalem donc tombe. Saladin toutefois accorde le libre retrait de la population, peut s'en aller, et surtout ne détruit pas Saint-Sépulcre. Pratiquement signe de, comment dire, de dommage posthume en quelque sorte au roi Baudouin, et puis parce qu'il a bien compris que la destruction du Saint-Sépulcre, ce serait évidemment l'arrivée immédiate d'une nouvelle croisade et peut-être évidemment donc une mobilisation sans précédent des énergies, donc Saladin renonce donc à détruire le Saint-Sépulcre. À partir de ce moment-là, seules se maintiennent quelques villes sur la côte, c'est le cas de la ville de Tyr, c'est le cas de la ville de Tripoli, c'est le cas de la ville d'Antioche, quelques forteresses isolées comme le Trac des Chevaliers. Mais il est clair évidemment qu'à ce moment-là, la Terre Sainte évidemment est en très grave danger, Jérusalem est tombée, et l'émotion qui secoue à ce moment-là donc l'Occident va entraîner donc une série d'expéditions destinées donc à délivrer une nouvelle fois Jérusalem. Alors les tentatives de reconquête, elles vont être multiples, elles vont malheureusement pour la plupart donc échouer. Une troisième croisade est donc prêchée dans les mois qui suivent la chute de Jérusalem. Une croisade que l'on appelait la croisade des rois, à laquelle participe l'empereur d'Allemagne, Frédéric Barberousse, à laquelle participe le roi Philippe Auguste de France, à laquelle participe également le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Cette croisade est une croisade qui vient en ordre, je dirais, dispersé. L'empereur vient par terre. Il va d'ailleurs remporter à la tête d'une armée importante des victoires en Asie mineure, mais malheureusement va se noyer accidentellement donc dans les eaux du Chélef en juin 1190 et son armée va se disperser. La croisade à partir de ce moment-là évidemment est assez affaiblie. Les deux autres souverains partent symboliquement de Vézelay en juillet 1190. C'est d'ailleurs très émouvant d'ailleurs quand on va aujourd'hui à Vézelay, c'est une aparté, mais quand on voit aujourd'hui la statue de Saint Bernard tenant l'épée effectivement donc à la manière d'une croix, et puis de penser à ces foules qui se sont rassemblées sur ce parvis, sur cette butte évidemment, pour aller jusqu'à la Terre Sainte. Ces souverains donc partent de Vézelay en juillet 90, vont débarquer en Terre Sainte dans l'été 1191, et vont parvenir, au terme d'ailleurs d'un très long siège, à reconquérir la ville de Saint-Jean-d'Acre. Malheureusement, ils échoueront devant Jérusalem. Ils obtiennent une trêve est conclue, ils obtiennent la liberté de pèlerinage pour Jérusalem, mais vont là encore très rapidement donc rembarquer. Alors, leur intervention n'est évidemment pas décisive, elle ne permet pas la renaissance ou la reconquête de la totalité de la Terre Sainte, mais ce qu'elle permet, c'est quand même la survie, pratiquement pour près d'un siècle, d'une présence franque, d'une présence chrétienne, donc en Terre Sainte, notamment dans ces villes donc, du littoral. Il est clair par contre que ces villes sont totalement dépendantes de l'aide apportée, notamment par les flottes italiennes, et c'est à ce moment-là, en gros, les Génois et les Pisans notamment, qui vont pratiquement être les pourvoyeurs constants de ces villes littorales. Quatrième croisade en 1203-1204, j'insisterai pas plus, j'en ai dit un mot, elle n'aboutira pas parce que les croisés n'ont pas les moyens de payer leur transport, les Vénitiens leur font payer le transport très cher, les Vénitiens sont des commerçants avisés mais des chrétiens peut-être pas aussi fervents qu'on pourrait le souhaiter, souhaite effectivement que la croisade s'attaque plutôt à Constantinople, ce qu'elle fait, malheureusement, en dépit d'ailleurs des menaces du pape Innocent III, le pape Innocent III qui a conscience de la catastrophe qui va en résulter. En 1216-1217, c'est la cinquième croisade passée par le pape Honorius III, avec encore deux souverains, le roi André Léon de Hongrie et le roi donc d'Autriche Léopold IV, enfin le duc d'Autriche Léopold VI, pardon. Et malheureusement, cette croisade aboutit à une défaite, la défaite du Mont Tabor, et notamment l'échec des tentatives donc entreprises contre le califat de Juif. Sixième croisade, alors, je suis désolé, évidemment c'est une longue énumération, mais c'est ainsi, sans guère de résultats. En 1225, une sixième croisade, notamment à laquelle participe l'empereur Frédéric II, qui est en même temps roi de Sicile, qui, d'ailleurs, dans un premier temps, refusait de partir en croisade. Le pape Grégoire IX l'y invitait fermement. L'empereur sera même d'ailleurs excommunié en 1227. Et il finira quand même par partir effectivement en croisade, mais dans une situation très 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 particulière, c'est-à-dire celle d'un croisé excommunié, évidemment tout à fait fréquent. Toutefois, Frédéric II donc, va négocier donc, avec le sultan, il va parvenir à conclure un traité, et il va obtenir la restitution de Jérusalem. Il va obtenir la restitution de Jérusalem, de Bethléem, de Nazareth, de quelques seigneuries également, donc aux chrétiens, en reconnaissant d'ailleurs le statut de ville sainte donc, à Jérusalem pour les deux religions. Quelque chose d'assez original, mais c'est quelque chose qui apparemment donc, s'était avéré donc, efficace. Malheureusement, Frédéric II étant toujours excommunié, les relations ont tendance à se dégrader très rapidement entre d'une part les barons de Terre Sainte et les troupes impériales, et il rembarque pratiquement dans un climat de guerre civile. Et ces concessions seront évidemment très rapidement donc anéanties. Une septième croisade est prêchée en 1239, toujours par Grégoire IX. Elle aboutit à une reconquête très éphémère, mais en 1244, Jérusalem est définitivement perdue, c'est-à-dire que les musulmans interdisent donc à nouveau l'accès à la ville. Et c'est cette perte définitive de Jérusalem et à nouveau donc l'interdiction des pèlerinages qui va susciter la dernière des grandes réactions, la dernière des tentatives de croisade de la part d'un prince que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit du roi Louis IX, c'est-à-dire Saint Louis, tout simplement, qui à l'annonce donc de la chute de Jérusalem va se croiser, mais ne pourra mettre son projet à exécution qu'en 1248. Il faudra pratiquement 4 ans pour que les circonstances permettent donc à Saint-Louis de se croiser et d'embarquer. Le départ, chacun le sait, se fait de la ville d'Aigues-Mort en août, le 25 août 1248, qui est donc devenu le jour de la Saint-Louis. Et Saint-Louis donc débarque en Égypte en juin 1249. Pourquoi en Égypte et non pas en Terre Sainte? Eh bien tout simplement parce que Saint-Louis estime que le danger principal se situe en Égypte, c'est-à-dire que c'est d'abord l'émirat d'Égypte qui constitue donc un danger, et que si on parvient donc à vaincre les Mamelouks qui se sont emparés de l'Égypte, à ce moment-là donc on pourra libérer la Terre Sainte. Les négociations, il y a d'abord une phase de négociation avec le sultan, qui est évidemment tout à fait impressionné par cette armée, des négociations où le sultan propose d'ailleurs d'échanger la ville de Damiet qui vient d'être conquise par les croisés et celle de Jérusalem. Malheureusement, le roi Saint-Louis donc, refuse cet échange et après donc, une avancée malheureuse et une initiative assez malheureuse de son frère Robert d'Artois, eh bien l'armée franque subit une semi-défaite sur la ville de Mansoura, près de la ville de Mansoura. Le roi Saint-Louis d'ailleurs, en vertu de l'honneur, refuse la retraite et sera même capturé donc en avril 1250. Pendant un certain temps, il reste prisonnier. Les Mamelouks finissent par accepter sa rançon, c'est de 500 000 livres, ce qui ne fait pas rien, il fallait un petit moment pour la réunir. Et Saint-Louis va à ce moment-là passer 4 années donc en Palestine, en Terre Sainte, à fortifier le pays, à le mettre en défense, et va même tenter d'ailleurs une alliance avec une secte musulmane, celle des Ismaéliens, celle aussi qu'on appelle la secte des assassins, destinée, si vous voulez, à prendre un petit peu donc l'émirat de Damas à revers et de prendre un petit peu les Syriens donc à revers. Malheureusement, donc dès le départ de Saint-Louis, l'anarchie s'installe pratiquement entre les barons francs qui vont reprendre leur querelle d'intestine. Et c'est d'ailleurs un paradoxe, enfin un paradoxe qui n'en est qu'un en apparence, c'est-à-dire en gros, plus vous êtes faible, et plus vous sentez vos intérêts matériels menacés, bah plus vous divisez. Et les derniers souverains locaux de Terre Sainte vont donner le triste spectacle, effectivement, d'une division tout à fait stupides, parce que alors qu'ils sont effectivement donc au bord de l'effondrement. La plupart d'ailleurs, dans cette période, très rapidement, la plupart des places franches vont tomber d'ailleurs face à la offensive musulmane. En 1271, c'est le krach des Chevaliers, pourtant très imposante forteresse, qui va tomber. En 1289, c'est la ville de Tripoli, donc avec son comté. En 1291, c'est la ville de Saint-Jean-d'Acre. Et toutes les autres places seront évacuées dans le même été. La dernière, c'est la ville de Tortone, qui était évacuée donc en août 1291. Et cette évacuation, cet échec, met fin à la présence franque en Palestine, en Terre Sainte. À partir de 1291, il n'y a plus de présence permanente donc des Francs en Terre Sainte. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les chrétiens disparaissent du Moyen-Orient, bien au contraire, il y a toujours une présence chrétienne au Moyen-Orient, ni même que l'idée de croisade disparaît. Cette idée de croisade, en dépit donc de la perte de la Terre Sainte, elle va subsister au moins jusqu'au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire que dans l'esprit de la papauté, il y aura toujours possibilité de croisade. Dans l'esprit d'un certain nombre de princes européens, la croisade sera toujours quelque chose de présent. Il y a un exemple en 1396 avec la croisade de Nicopolis, destinée donc à porter secours à Byzance contre les Turcs, donc il n'abdiquera pas. C'est également le cas, au XVe siècle, avec la tentative du duc de Bourgogne Philippe le Bon, avec ce qu'on appelle le vœu du présent, un vœu de partir en croisade, et puis c'est aussi, bien entendu, ce qui se passera au moment de l'étente, parce qu'on peut pratiquement qualifier ça de croisade, c'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est d'arrêter le flot musulman, la dernière, même s'il a encore cette fois-ci l'initiative, si vous voulez, à changer de camp, la dernière, c'est évidemment la tentative, la victoire du roi Jean Sobieski de Pologne sur les Turcs à Vienne, sous les murs de Vienne, donc à la fin du XVIIe siècle, qui était destiné donc à empêcher cette avancée musulmane et si possible bien entendu donc à reconquérir des territoires, y compris donc en Terre Sainte. Il ne faut pas oublier non plus que même si le résultat militaire sur le résultat politique est plus que modeste, ces croisades vont d'abord ont été une aventure spirituelle sans précédent pour l'Occident. Elles ont été effectivement un objectif qui a été présent aux yeux de l'ensemble des populations d'Europe pendant pratiquement 3 siècles. Et puis surtout, que le sort des chrétiens d'Orient ne sera plus le même après qu'avant, c'est-à-dire que les pays européens auront ce statut de protecteur, ce statut pratiquement officiel, notamment donc chez les Turcs, face aux Ottomans, ce statut de protecteur donc officiel des communautés chrétiennes, qui permettra en quelque sorte d'éviter la disparition chrétienne et qui permettra donc, je dirais, de rassurer un minimum d'existence légale. Enfin, il ne faut pas oublier que qui n'ont pas effectivement été couronnés forcément de succès, auront permis à l'Occident de se renforcer pendant des siècles avant de subir justement la soudivale, c'est-à-dire peut-être de lui permettre en quelque sorte de survivre, ou du moins donc de plus facilement défendu à terme, ce qui n'aurait pas été forcément le cas donc au 10e, 12e siècle. Voilà, j'en ai terminé.